This is New York.
Ce building, anciennement armé, qui ressemble un peu à une casemate, est le Guggenheim Museum.
World's largest
New York City is citing New York City.
Regarde sur New York.
Yes, this is New York.
Vous le voyez dans les rues de New York, que la réalité et la fiction s'enchaînent.
Sirène Chronica, New York.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir à New York juste avant votre départ pour Paris et en ce moment donc de sortie ou de pré-sortie de votre documentaire Le Voyage Extraordinaire. Alors pour présenter rapidement, j'ai évidemment cherché ce que vous faisiez et j'ai trouvé tous les termes producteur, directeur de la société Lobster, réalisateur qui est donc celui qui m'a le plus intéressé étant donné le contexte. Vous avez donc réalisé un documentaire sur l'enfer de Clouzot, un film inachevé, et maintenant vous venez de réaliser un documentaire sur Le Voyage dans la Lune de Méliès, un film
qui était
a
un
failli
film perdu.
Disparaître, qui était perdu, qui a failli être détruit. Donc comment en vient-on à travailler sur un film comme celui-là ?
On en vient à travailler sur un film comme celui-là par pur hasard, ou plutôt par un enchaînement de circonstances qui résulte d'un choix de vie. Il y a une petite trentaine d'années maintenant, même si j'ai su rester très jeune, ça commence à faire un petit bail. J'ai dédié ma vie à la sauvegarde, à la recherche de films dans les caves et dans les greniers. Et voilà, au long cours, on a retrouvé énormément de bobines. Il y a 3-4 ans, j'ai retrouvé ces boîtes de l'enfer d'Henri-Georges Clouzot et je me suis dit que les images étaient tellement formidables qu'il fallait en faire un long métrage. Le long métrage a été fait et il a été un assez grand succès puisqu'il a eu un César, il a été en sélection officielle à Cannes, etc. Et en réalité, simultanément à cette aventure-là, il y avait un autre film que j'avais un petit peu derrière la tête, une copie qu'on avait retrouvée en 1999 d'un film qui s'appelle Le Voyage dans la Lune, dont tout le monde connaît une image, l'image de la Lune avec la roquette dans l'œil, mais enfin, l'obus dans l'œil, mais personne ne sait exactement en fait d'où vient cette image, et personne a fortiori vu le film dont elle est extraite. Or, il s'agit d'un film tout à fait événementiel qui date de 1902, donc 6 ans après l'invention du cinéma, il y a plus de 110 ans. Je me suis dit que la copie qu'on venait de retrouver étant très particulière, ça valait probablement la peine non seulement de la restaurer, et ça aura été la restauration probablement la plus complexe et la plus ambitieuse de l'histoire du cinéma, et la plus chère aussi, mais surtout de raconter l'histoire de ce voyage dans la Lune de Georges Méliès, du succès des premiers jours. Ça a été le premier blockbuster de l'histoire du cinéma, ça a été aussi paradoxalement le premier film piraté, c'était le premier film avec des effets spéciaux de cette ampleur, c'était un des premiers films en couleur, ça a été le film le plus long de l'histoire du cinéma à son époque, figurez-vous qu'il durait 15 minutes, c'est vous dire à quel point il était long, et raconter comment on passe de 1902 à des périodes d'oubli, des périodes de disparition totale du film, la découverte miraculeuse et la restauration. Donc Le Voyage Extraordinaire, le documentaire que je viens de finir de réaliser avec Éric Lange, est cette histoire incroyable du plus célèbre film muet, au détail près que personne ne l'a vu.
Et pourtant, quand on le voit aujourd'hui, d'un côté, on a forcément les images de Jules Verne, et d'ailleurs, vous faites la comparaison dans votre documentaire, donc celle d'une sorte d'extravagance assez datée qu'on replace dans une période, et vous disiez, le prochain film de Martin Scorsese qui va sortir s'inspire entièrement de ce voyage dans la Lune.
Absolument. En réalité, il y a une actualité autour de Méliès. Est-ce une actualité de coïncidence ou est-ce que tout cela s'organise avec un karma et un grand ordonnateur ? Je n'en sais rien. En tout état de cause, il se trouve que Méliès sera né il y a 150 ans, le 8 décembre 2011. Il se trouve que, ce n'est pas à cette occasion, mais au même moment, Martin Scorsese va sortir son film qui, aux États-Unis, s'appelle Hugo, qui en français s'appelle L'invention d'Hugo Cabret, qui est tiré d'un livre de Brian Selznick, que beaucoup de gens connaissent, qui était un livre pour enfants, et qui raconte la rencontre en 1929 entre un Georges Méliès vieillissant, cela fait plus de 15 ans qu'il n'a pas tourné, et il vend des jouets tristement dans un kiosque à la gare Montparnasse, Grandeur et Décadence, et un jeune garçon qui rêve de réparer son automate, l'automate détenant un secret qu'évidemment je ne vous révélerai pas ici. Donc le film sort le 14 décembre en France, le 23 novembre aux États-Unis, et il va donc y avoir cette actualité autour de Georges Méliès, dont Hugo, ou Hugo Cabret sera la tête de comète et nous serons dans le nuage qui vient derrière, avec cette particularité qui est cette copie, ce film, cette restauration, qui sont quand même tout à fait miraculeux et incroyables.
Alors justement, cette restauration, revenons-y, parce que c'est sans doute le plus extraordinaire des voyages quand même. Donc vous revenez dessus longuement dans le film, c'est peut-être le cœur du documentaire. Et la chose qui est... Alors déjà, il y a une chose qui est très étonnante, c'est le facteur chance, disons, retrouver une bobine presque par hasard, c'est comme une chasse au trésor. Et c'est ensuite le processus même de restauration, parce que pour le restaurer, il faut détruire la bobine originale.
Absolument. Il n'y a pas de hasard. Je crois que c'est parce qu'on cherche qu'on trouve. Si on ne cherche pas, on ne trouve pas. L'histoire de cette copie est véritablement une légende. En 1993, un anonyme arrive à la Cinémathèque de Barcelone et avec 150 bobines, et dit voilà, j'ai trouvé ça, je sais pas ce que c'est, je vous les donne, à une condition, c'est que mon nom n'apparaisse pas et que vous ne sachiez pas qui je suis. Il dépose donc 150 boîtes, et dans ces 150 boîtes, il y a une copie du Voyage dans la Lune. Comme je vous l'ai dit, le Voyage dans la Lune a été tourné 6 ans après l'invention du cinéma, c'est donc un film muet en noir et blanc. Et sur la boîte, il y a marqué cette chose absolument incroyable, le Voyage dans la Lune en couleur. Ça, c'est l'une des deux caractéristiques majeures de cette copie. La deuxième caractéristique, c'est qu'elle est totalement décomposée. C'est trop tard, on ne pourra jamais rien en faire. Voilà le début d'une histoire terrible. Pendant 6 ans, le directeur de la Cinémathèque de Barcelone, la Cinémathèque de Catalogne, Anton Jiménez, va essayer de retrouver des laboratoires qui vont être capables d'extraire peut-être des informations, quelques informations clés sur une image ou deux images qui puissent permettre de... Mais tous les laboratoires qui regardent le film nous disent, écoutez, on est désolé, on ne retransforme pas un hamburger en vache, c'est foutu, quoi, c'est terminé. Et en 1999, nous venions de retrouver un film d'un réalisateur catalan de 1906, et le directeur de la Cinémathèque de Barcelone vient nous voir en disant, écoutez, si vous voulez, moi j'aimerais bien vous racheter la copie de ce réalisateur catalan. On lui dit, écoutez, ne l'achetez pas, donnez-nous un truc en échange, qu'est-ce que vous avez? Et il nous dit, oh, vous savez, à part le Voyage dans la Lune en couleur de Georges Méliès, je n'ai rien. Et là, c'est le début d'une histoire absolument insensée. Évidemment, nous faisons l'échange, c'est-à-dire que nous échangeons une copie en bon état contre un morceau de rien, une sorte de... on fait la comparaison avec une sorte de morceau de bois. C'est pétrifié.
Oui, c'est impossible de débobiner.
De dérouler rien, ça sent très mauvais, c'est décomposé, quoi. On met 2 ans à imaginer une stratégie, et en 2001, nous prenons la décision majeure de tenter le tout pour le tout et de mettre cette glorieuse épave dans des vapeurs extrêmement agressives qui vont accélérer encore, si c'est possible, la décomposition du film original. En gros, la pellicule va se mettre à mollir. Et au moment où elle va mollir, on espère que les spires vont se décoller les unes les autres. Et effectivement, chaque soir, on se rend compte que des nouvelles images sont décollées, sont ramollies. Mais évidemment, ce n'est qu'une étape d'une décomposition que nous avons accélérée et qui est évidemment inéluctable. Donc tous les soirs, nous prenions les quelques morceaux d'images ou les quelques images. Parfois, il y avait 4 ou 5 images. Parfois, il y avait un tiers d'image. C'est des petits morceaux, clic, paf, qui se cassent. Et on les mettait sous un petit appareil photo numérique. Nous sommes en 2002. À l'époque, il faut 2 minutes pour transférer une photo vers un ordinateur. Enfin, c'est héroïque, quoi. Et on photographie chacune de ces images les unes après les autres. Ce processus va prendre 2 ans. Il terminera à la fin de l'année 2003. Et à ce moment-là, rien, parce que les technologies n'existent pas. Nous avons bien sauvegardé avec la meilleure définition possible à l'époque le contenu de la bobine, qui désormais était en bouillie, mais nous ne pouvions pas remettre ces pièces du puzzle les unes derrière les autres, parce que ça coûtait une fortune, parce que technologiquement c'était pas possible, parce qu'il aurait fallu des années de boulot. Imaginez, il y avait 13 795 images. Et du coup, nous avons pris la décision la plus difficile, qui est de dire, voilà, le film est mort, le contenu est sauvegardé sur des disques durs à l'état de petits morceaux, on va attendre. On va attendre le bon moment. Et le bon moment est arrivé en avril 2010, où... une rencontre avec les responsables de la fondation Groupama Gann, qui est une société d'assurance parisienne, et la fondation Technicolor pour le patrimoine du cinéma. Technicolor étant, on ne le sait pas, une société française, c'est ce qu'on appelait Thomson avant, et qui a racheté Technicolor et qui maintenant s'appelle Technicolor. Donc les deux fondations ont dit, ont vu les petits morceaux de miettes désormais inutilisables, et ont dit c'est pas possible de laisser ça comme ça. Et du coup, c'est un peu une sorte de partenariat à trois. On est parti dans cette aventure incroyable qui a été de dire, ben voilà, ça prendra le temps que ça prendra, ça coûtera ce que ça coûtera, mais tout ce qu'on peut faire avec ces informations-là, on va le faire. Sans certitude du tout que ça aboutirait à quelque chose un jour. Et on est parti en septembre 2010, avec une équipe de 6 personnes, en permanence, sur les machines les plus sophistiquées, les plus rapides du monde, avec des connaissances d'effets spéciaux, parce que c'est les gens qui font traditionnellement des effets spéciaux. Donc on a vraiment, ça a été un boulot de titan. On a même collaboré, heureusement, avec la famille Méliès, qui avait une copie noir et blanc qui nous a été utile pour remplir les passages où, malheureusement, il n'y avait plus rien. Environ un petit peu moins de 10%, je pense, de la copie originelle.
Et puis, comme c'était passage en noir et blanc, vous les avez recoloriés?
Absolument. De manière conforme pour que ça ne se voit plus aujourd'hui.
Bien sûr. Bon,
voilà. Et les archives du film du Centre National du Cinéma qui nous ont aidés à scanner la copie nitrate noir et blanc, c'est-à-dire la copie de la famille Méliès. Donc, et qui avait même les 54 dernières images n'existent qu'en un seul exemplaire sur l'élément qui appartient aux archives du film du Centre du Cinéma.
Donc en noir et blanc aussi.
Donc en noir et blanc aussi. Donc nous avons dû les colorier aussi. Mais il n'est pas rare que dans un plan, vous passiez 50 ou 100 fois d'une image couleur à une image noir et blanc recoloriée. Et a priori, aujourd'hui, c'est pratiquement imperceptible.
C'est imperceptible.
Voilà.
Mais c'est vrai qu'on voit les outils technologiques incroyables qui sont déployés. Et c'est vrai qu'à un moment, je crois parmi les intervenants du film, je ne sais plus quel est l'intervenant qui fait cette comparaison, mais qui compare tout de même qu'est-ce que c'est que restaurer une peinture, qu'est-ce que c'est que restaurer un film. Donc avec la peinture, on restaure un support, on conserve l'objet matériel. Le film, en l'occurrence, pour celui-ci, on a dû détruire l'objet
et
matériel.
Et pour tous les films. Oui, absolument.
Donc la question, c'est aussi tout de même, jusqu'où peut-on aller dans la restauration?
Ah, magnifique question qui vient de propulser la durée de ce reportage de 10 minutes à 3 semaines. Non, en fait, si vous voulez, le film a été fabriqué jusqu'à il y a une quinzaine d'années sur des supports qui ne sont pas pérennes. Jusqu'aux années 50, c'était un support qu'on appelait le nitrate et qui se décompose spontanément. On ne sait pas très bien quand, mais par exemple, les films Lumière du 19e siècle existent pour la plupart encore. Par contre, Les Enfants du Paradis, tournés en 44-45, n'existent plus. C'est décomposé. Voilà. Donc, l'élément original, c'est-à-dire le plastique sur lequel est couché l'image, l'émulsion photographique, cette émulsion argentique, ce support plastique est malheureusement voué à fondre. Il n'existera plus. Les pellicules utilisées ultérieurement à base de diacétate sont, elles souffrent d'un autre mal, mais tout aussi catastrophique, qui s'appelle le syndrome du vinaigre, où tout d'un coup, à cause de l'humidité, au bout de 50, 30, 60 ans, c'est pas, elles commencent à sentir le vinaigre. Tout d'un coup, elles ne sont plus planes, donc c'est impossible de les recopier puisqu'on peut plus avoir le point sur l'ensemble de l'image. Et puis, ça finit par se renfrogner et disparaître totalement. Donc, le principe de la restauration du film a toujours été d'extraire le contenu du film, c'est-à-dire grosso modo de le refotographier et de recopier ce refotographiage sur de la pellicule neuve, aujourd'hui en polyester, qui, elle, durera plusieurs centaines d'années. Mais effectivement, à partir du moment où l'on extrait pour recopier, ça peut se faire dans ce qu'on appelle des tireuses, c'est-à-dire que vous mettez grosso modo votre film dans un endroit, puis vous mettez une caméra dessous avec de la pellicule vierge dedans, et puis vous refotographiez votre film. Donc ça, c'est une sorte de transfert absolument direct et sans interprétation possible, mais qui pose des problèmes. D'abord, s'il y a des rayures, vous allez refotographier les rayures. S'il y a des instabilités, vous allez refotographier les instabilités. Et puis, les pellicules rajoutent à chaque fois un petit peu de grain, un petit peu de contraste. C'est un peu comme une photocopieuse. Quand vous photocopiez un document, même si c'est une très bonne photocopieuse, vous perdez un tout petit peu de la qualité initiale du document. Alors comment faire pour essayer de ne pas perdre dans le processus de restauration? Et la grande révolution de ces 10 dernières années, c'est que la technologie numérique nous permet désormais de scanner l'élément original, de le scanner sans perte de qualité, c'est-à-dire avec des définitions énormes. Chaque image a un poids colossal. Toutes les informations enregistrées dessus sont formidables. Et vous pouvez ensuite, grâce au numérique, tout le monde connaît Photoshop et ses logiciels de traitement d'image, vous pouvez enlever un petit scratch par-ci, restabiliser une image par rapport à l'autre, toutes choses que vous ne pouviez pas faire.
Le champ des possibles
s'étend à l'infini. Et c'est grâce à cela que la restauration du voyage dans la Lune a été possible, c'est-à-dire que vous pouvez remplacer une image manquante par un élément noir et blanc après l'avoir recolorié artificiellement, vous pouvez stabiliser une image par rapport à l'autre, si la gauche de l'image est détruite, vous pouvez remplacer uniquement la gauche de l'image ou un petit morceau ou un autre, etc. Si des couleurs sont passées, vous pouvez technologiquement retrouver la couleur d'origine, pousser le jaune et pas les bleus, chose que vous ne pouviez pas faire, des choses comme ça. Donc il y a effectivement de l'interprétation, de la même manière qu'en restauration sonore, il y avait des grésillements, il y avait des plops à chaque changement de plan, etc. Aujourd'hui, on peut supprimer les grésillements, on peut supprimer les plops. Mais quelle est la part du film original? Quelle est la part de la restauration? Jusqu'où peut-on aller trop loin? Si vous voulez, restaurateur, c'est un métier où vous pouvez tout faire avec les outils qu'on vous met entre les mains. Mais si vous êtes un restaurateur, c'est d'abord et avant tout parce que vous savez jusqu'où ne pas aller trop loin dans l'utilisation de ces outils. Ça nécessite une connaissance, une approche philosophique, une connaissance historique évidemment extrêmement grande et je crois d'abord et avant tout une grande modestie par rapport au film. C'est-à-dire qu'en gros, la vraie restauration, c'est celle où on sert les intentions de l'auteur d'origine, on sert le public qui va voir le film désormais, mais où on ne se met pas en valeur. Là, en l'occurrence, sur Le Voyage dans la Lune, c'est tellement complexe, c'est tellement délirant. Et le fait même, comme c'est un film muet, on a rajouté une musique, la musique de R, pour essayer de reconquérir un nouveau public. Voilà, tout ça, c'est des choix. C'est des choix qui sont assumés, qui sont tous des choix réversibles. On peut toujours revenir à ce qu'était le matériel d'origine. C'est évidemment l'une des conditions. Toutes les modifications ont été documentées, donc on sait exactement ce qu'on a fait, où on l'a fait, etc. Mais franchement, dans les écoles de restauration, on pourrait prendre ce film dans sa version restaurée et passer une journée pour expliquer tout ce qui est formidable dans cette restauration et passer la journée suivante pour expliquer tout ce qui est catastrophique dans cette restauration. Voilà, c'est un magnifique objet, extrêmement conforme et honnête vis-à-vis du film d'origine, mais évidemment, ce n'est pas le film d'origine.
Donc le titre, Le Voyage extraordinaire de votre documentaire est vraiment extrêmement bien choisi, ce qui recoupe toutes les dimensions du voyage. En tout cas, bien merci beaucoup.
Mon plaisir.
J'avais simplement une dernière question. En effet, une première américaine pour ce documentaire. Je me demandais pourquoi. Est-ce qu'il s'agissait de rappeler un peu en terre américaine qui avait vraiment inventé le cinéma ici?
Oui, je suis taquin et j'ai commencé la projection en disant: vous savez tous que le cinéma a été inventé en France, sous-entendu, et pas par Edison 2 ans plus tôt aux États-Unis. Je vais vous montrer que, alors que tout le monde pense que les premiers hommes sur la Lune étaient des Américains, en réalité les premiers hommes sur la Lune étaient des Français. C'est une approche un petit peu taquine, mais au fond c'est vrai. Cette histoire est aussi une ellipse de ce qu'a été le XXe siècle. Il est né avec le rêve d'un progrès dû à l'économie, à la mécanique, à la technologie. On rêve de tous avoir des voitures. Au moment où on tourne Le Voyage dans la Lune, les avions n'existent pas encore. Et quelque part, pour aller sur la Lune, on ne peut y aller qu'avec la poésie, avec l'imagination. C'est exactement ce que fait Georges Méliès. Le siècle a avancé, il a évolué. Grâce aux technologies, en 1969, on marche sur la Lune et la Lune est triste. Voilà, c'est comme ça. La poésie disparaît un petit peu de cette fin du XXe siècle, mais les technologies, elles, se perfectionnent, et c'est paradoxalement grâce aux technologies qu'on va pouvoir restaurer ce rêve merveilleux qu'avait fait Georges Méliès en 1902. Du coup, la poésie de Méliès a été prise en relais par des technologies pour la restaurer, et maintenant, aspect paradoxal et formidable, qui a d'ailleurs que relève parfaitement bien Scorsese dans son film. Oublions les technologies, oublions les performances techniques, les investissements financiers, les plus, les mieux, les machins. Revenons-en à ce qui fait la richesse et la beauté du cinéma. C'est l'enfance, c'est l'innocence, c'est le rêve, c'est la magie de Georges Méliès. Et au fond, il n'y a que ça qui compte.
Donc rendez-vous le 14 décembre 2011 dans les salles françaises pour voir votre documentaire.
Absolument.
Je vous remercie.